Vous écoutez IDFM, il est midi. Le vintage, la mode du futur. Bonjour à tous, Animaux et Nature est sur IDFM, la radio du bien-être, chaque deuxième samedi de mois de 12h à 13h. Aujourd'hui, mes invités sont Laurent Journeau, le fondateur du salon du vintage, Philippine, la créatrice de la boutique éphémère parisienne Stola Paris. Parmi les nombreux exposants du salon du vintage, je vous présenterai également une sélection triée avec amour de vendeurs professionnels ou semi-professionnels du vintage, Pauline et Ben, respectivement pour My Wishlist Paris et Triangle d'Or Paris, leur boutique en ligne, Valérie et Catherine, respectivement pour Val M Vintage et Madegen Vintage. Gaspiller, jeter, brûler, formater, fabriquer vite et souvent sont les principes mêmes de la fast fashion ou la mode jetable, qui peut présenter jusqu'à une trentaine de collections par an, c'est énorme, contre 4 pour une marque de vêtements classiques ou de luxe. La fast fashion est énergivore, hyper polluante, c'est la deuxième industrie la plus polluante en GES, gaz à effet de serre. Elle est aussi très formatée, copieuse, irrespectueuse sur le plan humain ou social et bien sûr écologique. Selon le rapport Climate Works de 2018, l'industrie de la mode produit 8,1% des GES de la planète, presque autant que le transport routier. Et pour toutes ces raisons, l'industrie française de la mode estimait que le marché de l'occasion pesait en 2018 en France 1 milliard d'euros et en 2020 1,2 milliard d'euros. Environ 50% des consommateurs indiquent vouloir acheter plusieurs pièces de seconde main en 2022. La seconde main est une alternative plus durable, écologique, économique, éthique et même esthétique. Elle favorise le recyclage, la slow fashion, la circulation locale des pièces, comme chez Emmaüs ou Bisboutique Solidaire ou le Secours Populaire, et j'en oublie hein, sans doute. Elle favorise la distribution en circuit ouvert, la réinsertion sociale, la solidarité et le respect humain. Et pour la mode vintage, eh bien, la seconde main favorise une mode non formatée, des tissus oubliés, mieux travaillés, plus solides, plus mode ou designés, des coupes impeccables aux matières plus originales et nobles. Une mode esthétique tournée entre 1950 et 2000 avec ses grands couturiers français. Une mode tournée vers le luxe. Le vintage permet aussi et profite aux modeuses branchées issues du monde de la mode, eh bien, ou des étudiantes, des brocanteuses, des antiquaires, de créer leur boutique en ligne. Le vintage a permis l'émergence de nouvelles marques dont je vous parlerai plus tard. On marque une petite pause.
Space and the world can't erase this fantasy.
Bien à l'écoute d'Animaux et Nature sur EDFM, la radio du bien-être. Retour sur le thème d'aujourd'hui, le vintage, la mode du futur. C'est fou quand même de penser que le temps présent et le temps futur se tournent vers le passé en matière de mode et de design. Avec l'émergence d'un nouveau style et art de vivre, le vintage. Se looker vintage, c'est prendre soin de la planète et des autres. C'est aussi être tendance et ça se passe aussi dans notre home sweet home avec du design et de la décoration vintage. C'est le dada, si je puis dire, de Laurent Journeau, le fondateur et organisateur des salons du vintage. Je dis les, car il en existe aussi bien en France qu'au Luxembourg, par exemple. Le dernier se tenait à Paris au carreau du Temple où Laurent Journeau m'a accueilli avec beaucoup de gentillesse. On l'écoute.
Le vintage, c'est des années 50 aux années 90 aujourd'hui.
Et le rétro, c'est avant 50, c'est ça ?
Le rétro, c'est une autre manière d'appeler ça le vintage. Mais,
ouais. Mais avant 50, c'est quoi alors ? Ça ne peut pas être du vintage ?
Non, c'est pas,
ah ouais.
C'est de l'art déco, de l'art nouveau.
Même dans les vêtements ?
Ouais, c'est plutôt de l'art déco, de l'art nouveau.
Ah ben ça, je savais pas. Mm-hmm. Et vous êtes passionné de ça depuis longtemps ?
Ouais, ça fait 20 ans que je fais ça, ouais. J'ai une équipe de personnes qui travaillent avec moi sur...
Et est-ce que vous avez une plateforme ou c'est uniquement sur les salons ?
Alors on travaille sur les salons, on a une boutique à Paris dans le 3e rue de Turenne et puis on est également sur le site salondu-vintage.com.
D'accord. Et sur le salon et sur la boutique, c'est le même genre de clients et le même genre de vendeurs ?
Oui, de toute façon là, ce week-end, on est dans le 3e arrondissement, dans le carreau du Temple. Au carreau du Temple et c'est vrai que dans ma boutique, dans le 3e arrondissement, on a exactement le même genre de clientèle, des gens qui sont vraiment passionnés de vintage, qui connaissent vraiment bien le mobilier vintage, le design. Et c'est ce qu'on retrouve ce week-end au Carreau du Temple.
Vous êtes plus passionné par le design, les meubles, que la mode ?
Ouais, moi j'ai vraiment un amour du mobilier des années 70-80.
Pourquoi ?
Parce que c'est ma jeunesse. Et c'est vrai que en fait, quand on cherche du mobilier design et même en général du vintage, ce qu'on recherche finalement, c'est un peu le goût de sa jeunesse.
Le goût de sa jeunesse. Mais dans les années 70, vous ne trouvez pas que le design, c'était quand même plus coloré, plus fou que dans les années 50, qui était plutôt austère et droit.
Oui, en fait, à chaque décennie, on a eu, on a eu droit à ces formes, à ces matières et à ces couleurs. Je pense en particulier moi aux années 70 et 80, on a vu l'avènement du style Memphis, ce style italien très marqué par des couleurs très flashy. Et c'est vrai que aujourd'hui on voit bien avec par exemple l'exposition qu'il y a au musée des arts décoratifs en ce moment, ce retour voilà, à l'envie de couleurs qui donne un peu de joie dans la vie.
Dans les années 70,
exactement.
Oui, maintenant. Et justement, après la crise Covid, vous ne trouvez pas qu'il y a eu un boom de ce marché circulaire, de la mode circulaire?
Oui, en fait, le Covid a sûrement joué dans le fait que les gens aujourd'hui achètent de plus en plus de vintage.
Oui, voilà, il y a eu un impact, c'est ça que vous voulez dire.
Oui, en fait, les gens d'abord se sont aperçus qu'ils avaient un chez eux, parce qu'ils sont restés chez eux.
Ah ouais.
Et en restant chez eux, quelquefois, ils se sont dit, chez moi, c'est moche.
Et il faudrait changer ça.
Ouais, et comme ils se sont dit, c'est moche chez moi, ils se sont dit, je vais meubler chez moi, et puis je vais meubler bien, beau, avec une conscience écologique. Parce que finalement, le vintage, qui est intéressant, c'est que c'est d'économie circulaire, c'est remettre sur le circuit des objets qui, finalement, seraient sûrement allés à la poubelle, à la décharge, etc. Et alors qu'en fait, non, ça peut non seulement avoir un aspect écologique, ça peut avoir du économique, et puis esthétique surtout. C'est-à-dire que finalement, c'est remettre au goût du jour. Voilà, des objets qu'on n'aurait pas imaginé réavoir dans son intérieur.
Alors, les gens confondent aussi le vintage en pensant que dans le vintage, il n'y a que du vieux ou que de la seconde main, mais il peut y avoir du vintage neuf.
Alors, le vintage neuf, c'est encore un autre marché, c'est ce qu'on appelle le néo-vintage, c'est-à-dire en fait des pièces qui ressemblent à des pièces anciennes, mais qui sont refabriquées.
Ouais, moi j'ai pas lu ça, mais enfin bon. Parce que moi j'ai vu aussi des gens qui vendaient des pièces, vintage, peut-être pas dans les meubles, mais en fait qu'ils avaient jamais porté, par exemple. Qui étaient neuves. Et alors ils le revendent.
Ah oui, alors ça c'est encore un autre marché, c'est le marché du dead stock. Le dead stock, c'est des fins de stock, justement,
qui n'ont jamais.
Qui sont vintage de fait et qui n'ont jamais été utilisés. Donc on a l'impression du neuf et c'est effectivement du neuf ancien. C'est particulier,
c'est
mais ça existe.
Ouais.
Ça existe beaucoup sur le marché du vêtement,
ouais.
moins dans le mobilier. C'est beaucoup plus rare dans le mobilier.
Alors dans le mobilier, c'est vraiment de la seconde main.
Dans le mobilier, alors il y a de la seconde main, il y a beaucoup de choses qui sont retapissées également.
Ouais. Upcyclées.
Qu'en fait dans le mobilier en fait on a souvent les structures, les carcasses finalement des designers. Je pense à Olivier Mourgue, à Pierre Paulin, on a souvent des structures des meubles mais qui sont complètement cramées. Et donc du coup au tapissier de remettre de la mousse, de ressangler, de retapisser, etc.
Donc, c'est comme une vieille toile, une peinture qu'on est obligé de remanier.
C'est un peu comme une vieille toile. Mais...
Alors qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions pour pouvoir exposer ici?
Alors pour exposer au Paris Design Temple et au Salon du Vintage, il faut vraiment avoir des produits anciens, c'est très très important, donc soit anciens, en état ancien, soit retapissés, mais de toute façon, il faut que ce soit en excellent état, que ça ait au moins 20 ans d'âge et que ça ait suffisamment d'intérêt pour le public qui vient, et avoir suffisamment d'intérêt, c'est-à-dire qu'il soit glamour.
Mais il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour inviter certaines personnes et non et dire non à d'autres?
Oui, en fait, nous, c'est vraiment notre boulot de sélectionner les exposants.
Voilà.
C'est notre boulot quasiment quotidiennement de pouvoir dire, ça c'est joli, c'est désirable, on en veut au salon. Voilà, c'est un peu notre boulot.
Et est-ce que vous avez augmenté la part de la mode ou plus le design?
Cette année, on a vraiment augmenté la part du mobilier. Il y a 80% de mobilier dans le salon.
Ouais.
Voilà, mobilier, déco.
J'ai même vu des voitures.
Ouais, alors les voitures, c'est encore autre chose. Mais effectivement, les différentes thématiques du salon restent mobilier, déco. Ça, c'est vraiment 80% du salon.
Ouais.
Ensuite, auto. Vinyle et puis vêtements, parce que les vêtements de toute façon...
Et accessoires.
Oui, vêtements, accessoires. Les gens adorent les vêtements et les accessoires. Voilà, ça reste un...
Est-ce que vous habillez en vintage ou pas ?
Alors moi, personnellement, je ne m'habille pas en vintage. Par contre, je me décore en vintage. Je trouve toujours que... Bon, bah d'abord, comme vous savez, la mode, le marché de la mode, en général, ça ne représente que 20%. Donc déjà la mode homme, oui, c'est 20% ouais. du marché de la mode en général. Donc moi, je fais vraiment partie de ces petits 20%. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que voilà, moi j'ai besoin de courir, de sauter, de faire plein de choses et dans mon métier. Et donc je m'habille essentiellement en basket, ce qui n'est pas très écologique. Mais du coup, je me rattrape sur le mobilier vintage.
Mais le jean non plus. Mais le jean, c'est une des pièces moins écologiques. Mais exactement. Vous pourriez choisir un vieux jean.
Écoutez, je crois que le jean que je porte aujourd'hui est un vieux jean APC.
C'est cool.
Écoutez IDFM en DAB+,
DAB+.
Sur toute l'Île-de-France.
Je vous en parlais tout à l'heure, j'ai sélectionné avec amour quelques marques qui ont présenté leur collection lors du dernier salon du vintage au Carreau du Temple. Je vous présente maintenant Pauline et Ben parce qu'ils sont passionnés ensemble par le vintage, mais ces amoureux de la mode et ces amoureux tout court ont leur propre boutique. D'abord Pauline pour My Wishlist-Paris. Elle vit et pense en mode vintage. Rien ne lui échappe quand elle arpente les ventes aux enchères, les vide-greniers, les salons européens. Elle a un regard vraiment ciselé sur la mode, que ce soit sur les coupes, les matières, les logos, les marques. Elle repère vite les contrefaçons pour ne proposer à ses clientes que les meilleures pièces authentiques. Et bien sûr, elle aime la mode vintage pour ses tenues qu'elle a choisies avec soin. On l'écoute.
J'ai toujours été passionnée de mode, j'ai fait des études de stylisme et j'ai travaillé pratiquement 10 ans dans la mode comme styliste, assistante styliste et après designer pour une marque de parfum. Et petit à petit, j'ai commencé à chiner, à m'intéresser à la seconde main, au luxe aussi et aux ventes aux enchères. Donc je me suis dit, il y a vraiment un marché en pleine croissance là-dedans. Et moi qui suis aussi collectionneuse de pièces un peu particulières, notamment Chanel Vintage, c'était vraiment ma passion, en dehors de mes heures de boulot, d'essayer de trouver des pièces. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça à temps plein.
Quel est le profil de ta clientèle ? Est-ce qu'elle a évolué depuis 3 ans ?
Ma clientèle, elle est européenne, mais aussi asiatique. Et je vends aussi aux États-Unis, donc on va dire qu'elle est mondiale.
Et des jeunes ou des personnes plus jeunes, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un changement là-dessus, non ?
Non, il y a un peu tous les âges.
Et des filles et des garçons ou que des filles ?
Je vends principalement pour femmes. De temps en temps, j'ai des pièces hommes, mais je préfère vraiment me focaliser sur la mode femme. Je vends aussi sur Joli Closet, c'est aussi une plateforme française.
Ouais. Vous ne la connaissez pas, celle-là.
Et en dehors de ces deux plateformes-là, je vends dans des salles des ventes. Donc quand il y a des grosses ventes à thème, Chanel, Hermès, je vends uniquement quand il y a des grosses dates comme ça. Les ventes aux enchères, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que je confie mes articles à un commissaire un commissaire priseur qui va, fixer les prix ensemble.
Et est-ce que sinon tu vends sur des marchés spéciaux, des événements particuliers sur le vintage et que tu amènes ta boutique sur place ou pas ? Jamais ça t'arrive ?
Oui, alors récemment, donc j'ai participé au salon du vintage au Luxembourg.
C'est bon à savoir pour aller te voir. Donc c'est sur place, c'est sur Paris ?
Alors ça sera au Carreau du Temple en octobre, à Paris.
Ouais. Ça s'appellera comment ?
C'est le salon du vintage.
D'accord. C'est la première fois que tu le fais, sauf au Luxembourg l'as fait.
Je l'ai fait au Luxembourg, à Paris c'est la première fois.
Et là, il n'y a vraiment que des professionnels, parce qu'il faut le dire, ton site il est professionnel. Ce n'était pas une vendeuse lambda comme ça qui s'est lancée là-dedans juste pour vendre tes petites chemises ou tes petits pantalons.
Oui, c'est ça, sur Vestiaire Collective, j'ai un profil professionnel. Et au salon du vintage, c'est effectivement que pour les pros.
Tu vends de quoi ?
Alors, je vends principalement les années 80, 90, 2000 pour Chanel, Dior, Hermès, Vuitton. Je peux avoir des pièces plus récentes pour Vuitton. Et Chanel, je peux de temps en temps trouver des pièces des années 60, 70.
C'est plus rare, hein.
C'est, Oui, et puis... mais vraiment, la période que je préfère, c'est les années 90 chez Chanel.
Pourquoi ?
J'aime bien l'époque Claudia Schiffer, les supermodèles. Ouais. C'était vraiment coloré. Signé
avec les cinq. D'ailleurs, t'as un bijou comme ça que tu m'as dit qui était un très collector, hein, des boucles d'oreilles ou un pendentif, je ne sais plus.
Oui, c'est des boucles d'oreilles avec le chiffre 5 qui date de 1987. Et ça, j'ai mis plusieurs années à les trouver. Donc, je les ai achetés récemment dans une salle des ventes.
Ça fait longtemps que tu le voulais, ce bijou.
Oh, oui, ça fait plusieurs années. Et c'est vrai qu'il part à des prix exorbitants. Et il est assez rare à trouver. Il est très original parce que c'est juste le chiffre 5 dans un gros anneau, en fait, doré.
Ouais, ça me fait penser à Samantha dans dans Sex and the City. Je crois qu'elle avait une paire de boucles d'oreilles comme ça, avec le 5. Je ne sais pas si c'est la même, mais c'était du Chanel, évidemment.
Oui, c'est possible. Hein.
Et bon, cette marque, c'est ta préférée.
Oui, c'est ma préférée.
Donc, finalement, cette paire de boucles d'oreilles, tu te l'es gardée, tu ne l'as pas vendue.
Là, je viens juste de l'acquérir et je pense que je ne la vendrai pas au final parce qu'elle est introuvable.
Ouais.
Donc, il y a des pièces comme ça où je me dis vraiment, ça passe en collection. Je ne me vois pas m'en séparer, en fait.
Et quelle est ta plus belle pépite que tu aies trouvée depuis 3 ans, à part celle-là? Est-ce que tu as d'autres choses que tu as trouvées vraiment
Oui, alors c'est des robes des années 90, Chanel, des robes assez rares aussi qui partent à des bons prix. Et en fait, j'essaye de plus en plus d'acheter des pièces vraiment rares, quoi, qui sont collectionnées, on va dire. En fait, quand je voyage, tout simplement, ça peut être en France, ça peut être à l'étranger, je fais tous les dépôts-ventes de la ville. Je fais aussi les vides-greniers, les brocantes, s'il y a un salon, voilà. Donc je suis curieuse. Et
là, donc tu as un œil, quoi. Tu vas plus vite que les autres. Tu cherches, forcément.
Oui, après, je me focalise vraiment sur les pièces que je recherche. Il y a Yves Saint Laurent aussi, en bijoux, ça devient vraiment très recherché.
Ouais.
Donc j'ai un œil parce que je connais les modèles, en fait. Donc j'arrive vite à repérer ce qui est coté ou pas, tout simplement. Il y a aussi des modèles qui ne sont pas du tout cotés ou recherchés. Donc tout n'est pas à prendre, tout n'est pas à acheter non plus. Faut sélectionner. Et avec le temps, on apprend un peu à reconnaître les modèles qui sont plutôt recherchés et plutôt atypiques, quoi.
On va faire un petit jeu. Ta boutique préférée ? En vintage ou en un endroit où tu aimes aller régulièrement et qui vraiment est pour toi un graal ou un endroit que tu aimes dénicher ou une boutique en digital aussi.
Hein. Oui, alors moi, je c'est vraiment... je suis plus à chercher sur Internet. Mm-hmm. Donc ça va être...
Toi, t'es une chineuse digitale. Hein.
J'arrive plus à voir, en fait, sur Internet les pièces... que dans une boutique physique, il faut vraiment fouiller. Et des fois, il y en a tellement qui sont
condensés. Oui, mais sur le digital aussi, il y en a tellement.
Oui, mais avec les filtres, en fait, on arrive à voir ce qu'on... Ouais. Enfin, c'est une manière de chercher qui est particulière. Chacun a sa propre manière, en fait, de chercher sur Internet. Et moi, je vois plus les choses sur Internet, en fait. Ouais. Ça ressort plus, quoi.
Ta marque préférée, bon...
C'est bon,
t'arrêtes pas de le dire, donc
après,
je pense.
Il y a des marques qui sont montantes, hein, ou qui sont, bon, ou alors moi je les découvre maintenant montantes. Mais Jean-Paul Gaultier, ça commence à prendre de l'ampleur. Les vêtements mèche, ce qu'on appelle mèche, un peu en résille, en maille résille, ça commence à être hyper recherché.
Ouais. Les t-shirts aussi, je crois que c'est Jean-Paul Gaultier qui fait des t-shirts très fins, transparents.
Oui, c'est en mèche, ouais.
Voilà, c'est ça.
Après,
ça c'est hyper coté. Hein.
Les vestes Mugler, il y a plein de vêtements comme ça qui reviennent à la mode. Et c'est intéressant de sortir un peu, puis de sortir un peu des marques que je fais habituellement, comme Chanel, Dior, Hermès. Ouais. J'essaie un peu de m'ouvrir à d'autres marques. Et voilà, mais après, il faut apprendre la culture de chaque marque.
C'est intéressant. Tu regardes des bouquins, des beaux livres pour regarder, c'est intéressant.
Ouais, j'achète des catalogues, effectivement, des livres.
Et ton vêtement ou ton accessoire préféré ?
Moi, c'est les boucles d'oreilles.
Ah, toi, c'est boucles d'oreilles.
Ouais, j'adore les boucles d'oreilles.
Ouais.
Les boucles d'oreilles clip, assez grosses, assez originales.
Du luxe, comment je dirais ? Pas de la joaillerie, mais du luxe fantasy.
Oui, c'est du fantasy, mais le fantasy dépasse les prix de la joaillerie.
Bah oui, mais c'est, c'est ça, ça dépend de ce qu'on achète. Est-ce que tu trouves que ton business, il est plus facile qu'avant ? Comment tu trouves que que ça a évolué. Est-ce que tu penses que c'est le marché digital, évidemment, il a permis d'ouvrir à plein de gens, mais en même temps, ça a un autre effet peut-être négatif, ou qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Alors, il faut savoir que les prix ont doublé en vraiment 2 ans. Et avant, j'arrivais à trouver des articles Chanel vintage, par exemple des ceintures, autour de 150, 180 euros. Et maintenant, c'est difficile d'avoir des ceintures, vraiment, vous savez, des ceintures chaînes avec entrelacés de cuir ou vraiment métal doré. Maintenant, c'est plus autour de 400 euros qu'on arrive à les acheter. Ça a doublé, en fait, les bijoux, les broches, les boucles d'oreilles.
C'est l'effet Covid aussi, tout le monde s'y est mis.
C'est plutôt qu'il y a de plus en plus d'acteurs, de plus en plus de boutiques, de gens qui se lancent là-dedans, qui veulent... Voilà.
Ils veulent une petite part du gâteau,
on dira. Et puis les gens ont envie d'avoir leur propre business, il y a ça aussi. Ils n'ont plus envie de travailler dans un bureau, ils ont envie d'avoir leur business.
Ou faire en double, switcher.
Ben, lui, a travaillé dans le milieu du transport de vêtements et accessoires de luxe, comme attaché de presse également. Il s'est tourné vers le vintage pour partager sa passion avec Pauline. Sa boutique triangle-d'or-paris propose beaucoup d'accessoires vintage de luxe et aussi pour les hommes. Ils sont tous les deux sur Instagram. Je rappelle que pour Pauline, c'est mywishlist-paris.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
Toujours à l'écoute des programmes d'IDFM, la radio du bien-être et Animaux et Nature jusqu'à 13h. Je rejoins maintenant le stand de Valérie pour sa boutique Val M Vintage, toujours au carreau du Temple, le salon du vintage. Elle me confie qu'elle adore la marque Courrèges. Eh bien, ça tombe bien parce que moi je suis complètement fan et même une fanatique de ce grand couturier français, André Courrèges. Valérie, eh bien je l'ai choisie pour sa passion de Courrèges. Elle possède de jolies pièces de l'iconique blouson en vinyle des années 70, mais pas que. Elle a aussi des rééditions et des pulls en maille, des jupes et des sacs même de la marque Courrèges, mais pas que. Allez, let's go Val. Tu es dans le milieu de la vente depuis combien de temps ?
Alors moi, j'ai lancé ma marque Valem Vintage depuis un an tout juste. J'ai lancé au moment du salon du vintage de l'année dernière, au 15 octobre. Et sinon, j'ai toujours évolué dans la mode, puisque j'ai travaillé dans la lingerie, la mode et le vêtement pour
enfants. Dans le prêt-à-porter ?
Prêt-à-porter, ouais.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie ? Tu aurais pu vendre plutôt des pièces actuelles et pas vintage.
Non, moi j'ai eu un ras-le-bol de la fast fashion
ouais.
Et depuis toujours moi je consomme seconde main et de plus en plus seconde main vintage puisque ça me permettait de m'acheter des belles choses,
mais
des belles matières.
C'est plus cher
mais bon, en vieillissant on peut se permettre un budget un peu plus élevé.
Ah. Tu portes pas de Y2K?
Non, pas du tout.
Mais c'est ta fille peut-être si t'as une fille?
Oui, alors j'ai des filles qui aiment bien, mais elles aiment bien les années 90.
Ah ouais. Putain, moi la mode du 90, bon, il y a quelques trucs. Mais...
Ouais, bah les 501.
Ouais, bon, d'accord.
Les Converse, enfin c'est comme moi j'étais habillée au collège, quoi.
Ouais.
Et sinon, moi, mes années de prédilection, c'est plutôt les années 70.
Pourquoi ?
À cause de ces grandes icônes de la mode et les grands couturiers français.
C'est plus coloré, c'était
des formes
flower power.
Et puis qui rock. Font des jolis corps.
Ouais, aussi. Ouais, ouais.
Voilà.
Enfin, il fallait être fine. Hein.
Il faut toujours être
fine dans la mode, de toute façon,
exactement.
Et grande. Voilà. Et ressembler à un mec.
Mais la mode des tailles hautes, c'est quand même assez saillant pour les femmes.
Oui. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans la mode des années 90, c'est les jeans tailles hautes. Et dans le Y2K, j'aime bien les formes très larges des pantalons. Parce qu'en fait, ça, on ne voit pas si tu es grosse ou pas.
Ça fait des silhouettes, voilà.
Alors dis-moi, tu vends uniquement, tu ne vends pas en boutique?
Alors moi, je vends dans plusieurs points de vente qui ont des sélections de ma marque. Je fais aussi des événements comme le salon du vintage ou d'autres pop-up avec des confrères vintage.
Ouais.
Et j'ai un stand aux Galeries Lafayette également.
Ah oui. Mais ton stand ou avec Crushon?
Avec Crushon.
Je salue les Crushonettes.
Et puis, je suis sur Internet à travers des plateformes comme Imparfait Paris ou Lysis.
Alors, c'est quoi la différence entre les deux ?
Alors, Lysis, elle est spécialisée dans la haute couture. Donc, je présente toutes mes pièces Chanel, Yves Saint Laurent, essentiellement sur Lysis.
Et ici, tu en as ?
Oui. Ici, j'ai
toutes. Quelles sont tes pièces les plus... celles que tu préfères déjà ? Toi, tu
aimes
bien...
Alors, moi, je suis assez spécialiste courage. Ouais. C'est comme ça qu'on m'appelle quand une cliente cherche du courage, on me l'envoie sur mon stand.
J'en ai pas vu beaucoup, là, autour.
Non, c'est pour ça que mes confrères et consoeurs m'envoient à chaque fois les clientes qui cherchent du courage.
C'est sympa.
C'est très sympa. Et puis, j'adore les pièces Chanel.
T'as un beau manteau, là, bleu marine.
Oui, le manteau bleu marine, je vais te montrer.
C'est un Chanel, ça.
C'est un Chanel des années 70, dans un tweed marine.
Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est impeccable.
Une forme simplissime, mais chic.
Avec des petits boutons dorés et bien doublés, évidemment. Voilà. Parce que la mode aussi des années du vintage, c'est les belles doublures.
Les belles doublures en soie, un tombé, les épaules ajustées. Quand tu le passes, tu te dis, mais en fait, on dirait qu'il a été fait sur moi. Mais en fait, tu reconnais la façon Chanel.
Et alors, tu aimes beaucoup les courage. Et ce que j'ai remarqué, ce qui est très bien aussi dans ta boutique, c'est que dans d'autres boutiques, on peut trouver des vestes courage, des vinyles, mais de petite taille. Alors déjà, quand c'est marqué 38, c'est du 36. Donc, et très cher. Donc évidemment, dans des petites tailles comme ça, moi, je trouve qu'ils devraient baisser le prix. Mais toi, tu as de toutes les tailles. Hein.
Oui,
tu as du 40,
j'ai du
42.
42 courage, ce qui équivaut à un 40. Ouais. J'en ai eu plusieurs.
T'en as d'ailleurs de tout. T'en as un rose, portes un bleu nuit.
J'avais une violette, une bleue, et j'ai vendu une autre rose en taille plus grande.
Et la violette, je l'ai vue sur Instagram. Elle est très jolie en violette. Hein.
Vendue hier, première heure.
Ouais. et sinon, tu as aussi de la maille chez Courage.
Alors, la maille.
Ça, c'est difficile à trouver.
Ce
hein.
sont les petites mailles iconiques de Courage, les petits pulls chaussettes. Donc, la maille côtelée qui est près du corps.
Ça, c'est années 80 ou années 70?
Alors, celui-ci, c'est 80, un années 70. Comment tu peux reconnaître? C'est que les étiquettes sont différentes en fonction des décennies.
Des décennies, oui.
Et fin 60 et en 70, tu avais des tailles en ABC chez Courrèges.
Oui, oui. Alors, la maille, là, le bleu que tu viens de me montrer, il a le ABC.
Oui.
Oui, et celui-là, il ne l'a pas.
Et celui-là, il ne l'a pas. Alors, et ensuite, ils ont aussi, en fonction de l'année, fait produire soit en France, soit en Italie. Donc celui-ci, c'est un made in Italy.
Ah oui, ça
nous indique aussi qu'il est plus récent.
Plus récent, voilà. Sinon, c'était
made in France. Par exemple, celui-ci, le jaune moucheté, là.
Ah ben voilà.
Voilà.
Le ABC.
C'est du made in France, voilà. ABC.
Oui, donc il est vieux, celui-là.
Voilà, fin 60, 70.
Donc c'est très cher par rapport à, je dis pas ça pour toi, partout, peut-être ils sont plus durs à trouver que les blousons ou quoi? Comment ça se fait qu'il y a une pénurie?
Les petits pulls, c'est vrai que moi dès que j'en ai, ils partent comme des petits pains, sont des matières en fait,
ça, c'est très
des
joli.
Petits pulls qui ont entre 40 et 50 ans et qui sont nickel.
Ah, moi j'adore
aujourd'hui,
ça là.
Tu t'achètes un pull, il est bouloché trois fois.
Et montre-moi celui-là,
c'est une magnifique blouse.
Alors ça c'est rare.
Avec des rayures dans la
transparence. Pas pour toi celui-là.
Bah écoute, si je gardais tout ce que je trouvais.
Non mais quand même, toi qui es folle
Je suis dingue. Après.
Ah, il est mignon celui-là. Il est pas cher, je trouve, 150 euros.
Ouais. Non mais ce que je veux, c'est que ce soit des vêtements qui soient adoptés et qui soient abordables par toutes les catégories. Il y a beaucoup de jeunes qui sont folles de courage et ça me fait plaisir de savoir que ça va être porté par.
Et il y en a un autre là, en côtelé. Allez-y, madame, on vous laisse rentrer, allez-y, allez-y, on fait juste... celui-là, il est beau, il est rare celui-là, parce que du côtelé chez Courage...
C'est un côtelé années 70,
le ABC.
Sublime.
Ouais, il est très beau.
Cintré, avec tous ses boutons d'origine.
Il n'est pas cher non plus, je trouve. T'aurais pu le mettre un peu plus...
Mais comme je te dis, je souhaite que ce soit abordable et que ça puisse...
Parce que c'est un problème, c'est que...
reporté, en fait.
Le porte-monnaie du vintage, c'est pour les nanas qui ont du fric ou les mecs... Enfin,
oui, on peut le dire. Je préfère que ce ne soit pas des collectionneurs qui l'achètent, mais des gens qui veulent vraiment
ou
le
qui revendent.
Et qui... Oui.
Ou qui revendent après toi. Je vois aussi que tu as des accessoires.
Alors, mon idée, c'est effectivement d'habiller la femme au complet, donc de lui faire une vraie silhouette, un vestiaire entier qui passe du prêt-à-porter aux accessoires, foulards, chaussures, sacs.
Et tu as des petits sacs courage?
J'ai des sacs courage. Là, il m'en reste...
Fais voir celui-là. Ah, mais je ne connaissais pas celui-là.
Trois, là, sur mon
j'avais
stand.
Pas, je ne connaissais pas la forme.
Tu vois, il y a le ouais. joli, là.
Oui, oui, oui. Celui-là, ça, ovale. C'est une forme ovale. Mmh. Moi, j'ai une forme ronde, toute ronde, qui est très okay. mignon et le... Qui sera
moi
comme
j'avais
ça.
Une forme caméra hier, ouais. là aujourd'hui j'ai celui-ci.
Oh, d'accord, en... combien? Moi j'ai une copine, elle en a une quinzaine. Elle veut même pas m'en donner un.
Non, moi j'en ai deux en, ouais. à moi.
Oui, enfin t'en as deux, mais t'en voilà. as déjà trois ou quatre.
Mais
là.
Sur le stand j'en ai encore trois ou quatre. Merci pour cette interview et puis à bientôt pour les Vintage Lovers.
Toutes les pièces sont impeccablement présentées, que ce soit celle de Pauline, My Wishlist Paris, Ben, Triangle d'Or Paris, Valérie pour Valem Vintage et Catherine Madegen Vintage. Pour le moment donc, justement, place à Catherine, que vous connaissez sans doute, puisque je l'ai interviewée lors du salon Cruchon Vintage Market, c'était au mois de septembre, si je me souviens bien. Sa marque préférée, eh bien, c'est Balenciaga et les années 60-70. Et j'avoue que moi aussi, Balenciaga me parle. J'ai d'ailleurs chiné une très jolie veste blanche à fleurs vertes, très cintrée, avec un énorme nœud dans le bas du dos. Et la veste date des années 80. Hello Catherine!
Je te retrouve Catherine, je suis très contente de te retrouver
bonjour,
au salon du vintage.
Ouais.
Donc là on va parler, c'est pas le même genre de pièce que tu as, c'est un petit peu plus, c'est pas plus vintage,
non,
mais
c'est plus vintage, un peu plus luxueux. Plus couture je dirais,
plus couture.
Moi, je préfère parler de couture,
alors pourquoi,
un peu vintage.
Oui oui j'adore, c'est la première fois qu'on me le dit ça, plus couture.
Ah
ouais,
c'est comme
ça je vais le ressortir, ça fait plus couture.
Et tu vois mon petit panneau, j'ai marqué couture et couturière parce que aussi c'était l'époque, les années 60, enfin jusqu'aux années 60-70,
ouais.
où les couturières de quartier créaient des vêtements sur mesure, choisissaient des tissus en s'inspirant bien évidemment des grands couturiers.
Alors je rappelle aux auditeurs.
Il y a beaucoup de choses qui sont très très belles à retrouver et avec des... un savoir-faire, je dirais, très intéressant, quoi.
Oui, mais je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que toi, dans ta famille, tu avais une maman qui
était couturière.
Ta grand-mère était couturière et ta tante faisait autre chose.
Non,
elle avait une boutique.
Ma grand-mère a eu des boutiques, ma mère aussi et ma sœur aussi.
Voilà.
Donc voilà.
Donc
moi qui étais le vilain petit canard.
Alors,
et
qu'est-ce
puis,
que tu portes aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vais mixer. Je porte une veste vintage qui n'a pas d'étiquette particulière.
Mais est-ce qu'elle est française?
Oui, absolument.
J'aime bien les petites marques françaises, les vieilles petites marques
exactement.
Françaises.
Ben, à l'époque, tout était fait en France. Les fringues du sentier, c'était créé ici.
Et plus maintenant?
Plus maintenant.
Maintenant, c'est chinois.
C'est chinois, ouais. Alors, le luxe fabriqué en Italie, mais c'est très très bonne qualité. Ouais. Donc ça, c'est plutôt un signe de qualité, c'est sympa. Mais ça revient quand même, de plus en plus, les créateurs font faire des choses en France, mais c'est plus cher.
Et même Courrèges, le directeur artistique Courrèges, je ne sais pas si vous dites directeur artistique.
Le styliste.
Le styliste, le designer, il a dit que dans ses prochaines collections, il veut vraiment fabriquer plus près pour éviter le circuit long.
Oui, bien sûr.
Donc il est plus green.
Enfin, après, ils disent tout ça, mais...
On verra.
Non, mais... C'est Isabelle Marant qui avait une analyse assez intéressante là-dessus, qui disait que voilà, de toute façon, la mode, même si elle veut devenir plus vertueuse, on sait que c'est une industrie qui est quand même polluante. Et,
la deuxième plus polluante.
Voilà. Et les créateurs,
après les transports.
Ils savent très bien, en sortant 6 à 8 collections par an, que de toute façon, ils poussent à la consommation et qu'on n'est pas dans une démarche très écolo à la base.
Mais ce qu'il faut, justement, c'est ne plus jeter.
Ne plus jeter.
Ou upcycler et revendre.
Voilà. Et puis voilà, c'est vrai qu'on peut changer de taille au cours de sa vie, on peut changer de style, on a des vêtements qui nous rappellent certaines occasions qu'on n'a pas forcément envie de se rappeler. Donc il faut changer de temps en temps, renouveler sa garde-robe.
Alors sinon tu portes un petit chemisier.
Je porte un chemisier Lavalière jaune fluo de chez Balenciaga.
Ah. Balenciaga.
Et un jean,
des années 40. Ah ouais, elle est beau.
Voilà.
Alors Balenciaga, c'est une de tes marques préférées, je crois.
Oui, absolument. Chanel, Balenciaga.
Balenciaga. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as mis en valeur? On va avoir trois pièces là. Alors dis-moi, décris-moi.
Une robe en laine de chez Givenchy Boutique, tout début des années 60. C'est une robe qui est complètement style Audrey Hepburn, hein, puisque voilà, c'est un peu légérie.
Avec un col.
Avec un petit col montant, des manches courtes, une emmanchure raglante, coupée à la taille.
Et des petites poches qui sont vraiment devant.
Sur les hanches.
Ouais. C'était la mode à cette époque-là.
C'était la mode. Ouais. Ça donne une très belle allure quand on met
ça grossit moins en plus que c'est les côtés.
Une bonne allure. Et une longueur sous le genou, entièrement doublée. Un drap de laine magnifique et d'une couleur kaki très réussi, je trouve, qui n'est pas triste du tout, qui est plutôt lumineux.
Et derrière, il y a une courée, je vois une robe.
Alors, ça, c'est une petite robe.
J'en ai pas vu beaucoup.
Hein, voilà, c'est pareil, c'est tout début années 60.
Ouais.
Et elle est magnifique. Donc, elle est en soie.
Alors, avec
beige,
le logo partout.
Avec le logo rouge, le logo reconnaissable entre tous. Avec trois petits boutons, un col ouvert, et là aussi coupé à la taille et plissé sur le bas de la robe.
Et la dernière pièce que tu voulais montrer,
c'est
doré.
Un gilet de brocart Céline, je pense des années 70 plutôt, je ne suis pas complètement sûre de l'année.
Des fois c'est difficile à...
C'est difficile, voilà. Et il est dans les tons rouge, doré... Et argent, avec des boutons tout du long.
Et glitter, je dirais, un petit peu glitter, c'est-à-dire brillant.
Oui, tout à fait, tout à fait. Des boutons martelés dorés. Et la forme vraiment style gilet du 18e siècle, quoi. Oui. Au 18e, c'était des hommes, hein, bien sûr, qui portaient ça, mais avec les pointes. Et voilà, ça peut être très sympa de le porter en décalé avec un t-shirt blanc et un pantalon très simple.
Ou même une robe par-dessus, toute simple.
Donc ça, et il est en parfait état.
Ouais, il est magnifique, très beau.
Donc,
très beau.
Voilà.
Et ta clientèle, là, c'est beaucoup de femmes de tous les pays. Je viens de voir une de tes clientèles qui était belge, là.
Oui. Hier, j'ai vendu pas mal de choses à une japonaise.
Oui, les japonaises aiment bien.
Voilà, il y a un petit peu de tout. Des parisiennes, des provinciales qui viennent spécialement pour l'événement.
Et il y a beaucoup d'hommes, là, je trouve.
Il y a beaucoup d'hommes,
je suis très surprise. C'est le salon plus du design. Il y avait 80%, je le rappelle aux auditeurs et aux auditrices, 80% de design de meubles.
Mais en mode, il y a vraiment des très jolies choses. Hein. Ouais. Moi, j'ai des collègues qui ont des stands vraiment super.
Oui, je vais aller en voir une, d'ailleurs.
Voilà.
Bon, je te remercie, Catherine.
Merci
à bientôt.
À toi. À bientôt.
On quitte le salon du vintage. Pour terminer, je vous présente ma dernière invitée, Philippine, et sa création, le pop-up store Stola Paris, et qui présente uniquement du vintage. Son projet a été tranquillement élaboré, mûri depuis plusieurs mois, et dont l'ouverture s'est faite au 54 rue du Verbois, dans le 3e arrondissement de Paris. Ce concept store remporte un joli succès, si bien qu'il va ouvrir tout le temps. Je vous présente quelques chiffres. 8, c'est le nombre de vendeuses et marques proposées. Chaque marque expose environ 80 pièces sur leur corner. Alors, il y a à peu près par marque 2 portants. Si bien qu'au total, ce sont environ 800 à 1000 pièces dans toute la boutique, que ce soit des vêtements, des accessoires et même du petit mobilier de décoration. Philippine m'explique pourquoi elle a choisi la seconde main et pourquoi le vintage.
Donc le projet, il est né de convictions personnelles. Moi, ça fait plus de 4 ans que je n'achète plus de vêtements neufs.
Plus du tout.
On va dire 50% seconde main et 50% vintage.
Ah, oui.
Donc vintage, pour expliquer aux auditeurs, c'est tous les vêtements qui ont plus de 20 ans.
Ouais.
Donc ici, chez Stola, on rassemble des pièces qui datent des années 50 à 90 à peu près. Et pourquoi pas 2000? Alors, on a quelques pièces des années 2000, mais c'est vrai que l'identité de Stola est plus tournée sur des pièces un peu plus anciennes, on s'y met. Et à titre personnel, j'ai choisi le vintage plutôt que la seconde main, parce que c'est des pièces qui sont plus durables, qui ont en général été conçues en France ou en Europe, avec des matières qui sont plus nobles, donc plus durables. Et a priori, si les pièces nous arrivent dans cet état, alors qu'elles ont 50-60 ans de vie, elles sont faites pour durer.
ouais, encore plus.
Exactement, hein. Une voilà. seconde vie. Après, c'est très complémentaire avec la mode, seconde main, la mode classique.
Donc, 8 vendeuses et 1 vendeur enfin, en tout, ça fait 8. Professionnelles ou semi-professionnelles, c'est chineuse. Parcourt même la France et à l'occasion l'Europe, hein, la recherche de petites merveilles pour les proposer en boutique. Si bien qu'elles ont chacune des pièces uniques, personnalisées selon leur goût et non formatées. Philippine, elle n'a pas le temps de chiner. Elle dirige son pop-up store dont elle a au départ sélectionné les marques sur Instagram ou Facebook. Aujourd'hui, ce sont les marques qui la démarchent pour rentrer dans son réseau. On retrouve Rue du Verger, Marie Hélure, Valem Vintage, Prélude d'Antan Paris, les collectionneuses vintage, Bonjour Hier et une sélection pour les hommes.
Voilà. Est-ce qu'elles peuvent partir pendant 2 mois ou peut-être un mois et revenir ou 15 jours
tout à fait.
Et dans ces cas-là, tu laisses de la place à quelqu'un d'autre.
Ouais, ouais, exactement. Il y a un roulement qui se fait. C'est pas, disons que c'est pas formel. C'est pas toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, etc. Moi, j'ai plutôt vocation à travailler avec mes marques sur le long terme. En revanche, pour des raisons de stock, pour des raisons d'emploi du temps, il arrive que certaines marques, enfin, partent faire d'autres. Distribuer leurs pièces via d'autres canaux, ce qui est très sain par ailleurs. Hein, ouais. Il ne faut surtout pas rester
figé.
Avec un seul distributeur. Mais c'est vrai que là, toutes mes marques, la plupart restent sur les 3 mois du pop-up. Donc c'est plutôt long terme.
Mais alors, comment tu les choisis? Bon, on ne va pas donner de marque de celles que tu n'as pas choisies, mais ça a dû arriver, des marques qui ont voulu et toi dire. Tu dis, oh ben non, c'est pas assez. Quels sont les critères que tu choisis? Il faut vraiment que ce soit bon, d'accord, du vintage ou du 2000 ou même 2010, mais qu'il soit de la seconde main, forcément.
Alors,
hein, propre, tout bien.
Tout à fait. Moi, déjà, ce sera 100% vintage, donc avant les années 2000. Il peut y avoir quelques pièces des années 2000, mais c'est a priori avant les années 2000 pour toutes les raisons que j'expliquais précédemment. Et comment je choisis mes marques? Alors, au départ, c'est pas mal parce que je vois sur Instagram justement les photos.
Tu me l'as dit, mais au niveau des critères,
oui,
vraiment.
Oui, tout à fait. Oui. Donc ça va être déjà l'image, l'univers de Chine. Donc ça, c'est très personnel. Hein.
Ouais.
C'est très important, mais très personnel. Au départ, moi, j'ai choisi les marques qui me plaisaient.
Ouais, bien sûr.
Mais après, j'élargis parce que je ne suis pas représentative tous les goûts qui existent. Je vais privilégier des personnes de confiance déjà avec qui j'aime travailler et ensuite après des personnes qui portent un grand soin au choix des matières, qui privilégient plutôt les matières naturelles, les coupes assez intemporelles et qui prennent surtout grand soin des pièces. Voilà, donc moi ça fait partie des critères que je sélectionne, enfin que j'utilise pour sélectionner mes marques plutôt voilà. Souvent, j'ai pu en trouver quelques-unes via Instagram, mais ensuite j'ai fait par recommandation parce qu'il arrive que des personnes travaillent pas du tout leur image sur les réseaux sociaux, mais ont un tas de pépites en stock. Et donc c'est cette personne-là, peut-être un peu plus sous le radar, que j'ai essayé d'aller chercher par recommandation des uns des autres en cherchant quoi.
Alors dis-moi, donc comme ça marche, tu vas continuer. Normalement, ça devait s'arrêter fin novembre.
23 décembre.
Et donc tu reconduis.
Exactement. Là, le but de ces 3 mois, c'était vraiment de faire un test, de me convaincre moi-même avant d'aller convaincre les autres pour mener un projet plus ambitieux encore. Le test est concluant jusqu'ici. Donc, il faut pas baisser la garde, il faut continuer.
Donc, ça sera plus un pop-up store, en fait. C'est une boutique.
Oui, exactement.
Voilà. Est-ce que tu as le projet d'en ouvrir d'autres?
Oui,
déjà,
bah,
si ça marche.
Tout à fait. Pas, hein. Oui, à terme, l'idée, c'est d'en ouvrir plusieurs, que chaque quartier puisse avoir son point de proximité où il peut aller essayer les pièces, parce que je crois beaucoup au retail pour le vintage, parce que de fait, les tailles sont différentes, c'est compliqué d'acheter en ligne du vintage.
Ouais.
Donc, s'il y a bien quelque chose dont je suis convaincue, c'est que.
C'est que la boutique, il faut qu'elle existe.
La boutique a vraiment une valeur ajoutée, surtout pour le vintage.
Bien sûr. Ça portera toujours le même nom?
Ça s'appellera toujours Stola.
Et pourquoi?
La Stola, c'était l'équivalent de la toge pour les femmes mariées dans la Rome antique.
Ah.
Donc c'est une sorte de robe drapée blanche. Et surtout, j'ai choisi ce nom parce que c'est, je voulais un nom de marque en fait, plus qu'un jeu de mots avec cycle, re, vintage, seconde, etc. Ouais, ouais. Je voulais vraiment un nom de marque parce que je suis convaincue que pour rendre le vintage accessible à tous, il faut le rendre désirable et donc appliquer les codes de la mode classique à la mode vintage. Et dans ces codes, il y a la marque, créer une marque qui est forte. Voilà.
Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avant sans indiscrétion ?
Je finissais mes études.
Oui, mais de marketing ou parce que tu as l'air vraiment de connaître le métier, c'est surprenant.
Ah, alors, le métier, je le connais déjà depuis que je travaille sur le projet, mais ma mère est brocanteuse.
Ah, donc voilà. Oui, tu as un héritage familial. Voilà. Oui, c'est très important,
j'ai
ça.
J'ai cette fibre-là.
Voilà, pour les auditeurs et les auditrices, je demande toujours le métier ou qu'est-ce que faisait l'histoire de la personne. Exactement. Avant, parce que c'est comme ça qu'on s'aperçoit de beaucoup de choses. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu as une plateforme ? Est-ce que Stola Paris a une plateforme ?
Alors, Stola Paris est essentiellement présent sur Instagram et TikTok. Donc, le compte, c'est Stola Paris sur les deux. S-T-O-L-A Paris. Et voilà, c'est l'adresse actuelle, c'est au 56 rue du Verbois. Mais on communiquera sur la nouvelle adresse.
Donc, on ne pourra pas acheter sur Internet. Hein. C'est pour l'instant, uniquement non. Les boutiques.
Mais
hein.
Ça fait partie des projets.
Alors, combien sur une marque, combien il y a de vêtements ? À peu près
à
par
peu
marque.
Près 80 par exemple, pièces.
80 pièces par personne.
Ouais, entre 80
donc là,
et 100 pièces. Il y a à peu près entre 600 et 800 pièces.
Que des filles.
Alors ouais, c'est vrai que les vendeurs professionnels de vintage sont souvent des vendeuses
80%
professionnelles.
80% que des filles, mais en même temps, les vêtements, ce ne sont que pour les filles.
Non, on a deux portants pour les hommes. D'accord. Donc on a, du coup, ça correspond à 15%
les
de
enfants,
la sélection. Pas encore,
pas
mais
encore.
Ça fait partie des projets aussi.
D'accord. De l'accessoire, hein, j'ai vu.
Ouais.
J'ai vu de l'accessoire.
Ouais.
Pas beaucoup de bijoux, mais
non,
tu vas peut-être...
Non, c'est prévu pour Noël aussi.
Ouais, d'accord. Quelle est ta marque préférée, toi ?
Alors,
une ou quelle est celle que tu adores porter,
ouais.
Et quelles sont les années que tu préfères ?
Alors moi j'ai un petit faible pour les années 60, début 70.
Alors c'est drôle parce que pour ton âge, la plupart des nanas c'est 90
ou le Y2K,
je sais plus comment on dit.
Y2K.
Y2K,
ouais. le retour de Britney Spears en force. Non, moi ça va plutôt être les années 60, 70.
Et pourquoi ?
C'est très personnel encore une fois, c'est des coupes.
Pour les tailles, pour les coupes. Bonjour madame.
Bonjour madame, bienvenue. Pour les tailles, pour les coupes, ouais, parce qu'en fait, je trouve que c'est des coupes qui sont très
avant-gardistes en plus.
Ouais, complètement, très flatteuses, tout en étant très sobre. En fait, c'est un petit détail qui va changer tout le vêtement, donc.
Ouais, sobre dans les années 60, je suis pas trop d'accord.
Alors,
mais
moi, dans les années 60,
c'est la création de la mini jupe. Oui.
Des choses comme ça.
Oui, mais c'est de la mini jupe ça.
Ah bah oui. Mais bon, moi j'adore le mix entre sobriété mais avec un petit brin un peu sexy parce que bon, sinon on s'ennuie.
Voilà, on s'ennuie. Il faut pas être less is more, comme on dit.
Voilà,
hein.
Exactement. Moi j'aime bien mixer les styles.
Oui.
J'aime bien mettre un pantalon en cuir avec un sweat, une chemise transparente avec un pantalon blanc.
Classique.
Voilà.
Et dis-moi, la marque préférée, tu m'as pas dit.
Non, alors j'allais y venir. Moi j'aime bien piocher un peu dans toutes et mixer, et c'est ce que je conseille à mes clientes. J'ai un petit coup de cœur pour Rue du Verger que tu connais.
Mais c'est aussi
parce que elle a à peu près mon âge.
Ouais. Mais Marie et Lure aussi. Hein,
c'est tout ce qui est là, j'adore.
Alors, donc,
mais je les aime toutes, c'est pour ça que je les ai choisies.
Hein. Donc Rue du Verger, Marie et Lure, Bonjour hier.
Valérie de Val M Vintage.
Voilà.
Ophélie, donc, qui n'a pas encore de compte Instagram, mais qui est une super vendeuse. Elodie des collections vintage. Uni de Uni Sélection, qui fait du coup toute la partie homme.
Ah oui, c'est
voilà. Et puis Andrea de Prélude d'Antan, qui se lance tout juste.
Ouais.
Donc voilà, moi j'adore vraiment fondamentalement toutes mes marques. Et c'est ce que j'aime ici, c'est que c'est harmonieux et que toutes les marques fonctionnent.
Tes clientes, c'est de tous les âges ?
Alors, il y a une majorité, on va dire, de 25, 35, 40 ans.
Elles ont plus une conscience écologique, hein, je pense, que les personnes de...
Oui, alors moi, je suis aussi convaincue que comment dire ? On ne prend pas nos décisions avec un seul facteur, on va dire. Donc, c'est sûr que la conscience écologique rentre en compte. Moi, c'est ce qui m'a fait passer en fait au vintage. C'était vraiment par
pure conviction. C'est la première raison, disons.
C'était la première raison, mais dans les études que je lis sur le marché, ça arrive pas encore en premier. Le départ, c'est souvent le faire des économies.
Ah oui, économique, voilà. Ouais.
Donc
économique, écologique, cheap. On peut dire, enfin cheap, le côté pas cher, hein, voilà,
oui,
et esthétique aussi, et authentique.
Exactement. Ouais, bon, c'est un peu, je pense que c'est un mix de tout ça.
Comment ça se passe la vente ? Est-ce que tu prends une commission, je suppose
Alors, c'est un mix de commission et d'une petite partie de loyer fixe, on va dire. La vente, c'est ma stagiaire et moi qui l'assurons. On tient la
c'est
boutique.
Toi qui fixes les prix ?
Non, ou c'est les marques.
C'est les marques.
Parce que
et tu les aides aussi en disant oh, « Non, je pense que ça, tu pourrais... »
Alors, il arrive baisser, qu'on discute du prix ensemble, ouais. Mais... Comme je disais au départ, chacun fait son métier de la meilleure des façons et je leur fais complètement confiance sur
pour fixer leur prix. Philippine m'avoue que pour populariser le vintage, il faut le rendre désirable. C'est vrai. Et pour ne pas ressembler à un arbre de Noël, eh bien, le mieux, c'est le mixage des époques. Ainsi, le look sera ciselé, couture, tendance, fashionable et même street style ou autre genre. Pour moi, personnellement, la mode, c'est comme le maquillage. On se maquille avec goût, mais juste ce qu'il faut pour paraître naturel et glam. Eh bien, pour se vêtir avec goût, on doit peaufiner l'harmonie des tissus, des coutures, des couleurs, des coupes et des années. Et puis, je crois qu'il faut vraiment s'amuser avec la mode. Mais au maximum, moi, je pense, et beaucoup de personnes maintenant, dans le monde même, pensent que la seconde main et le vintage, c'est top. Retrouvez Stole à Paris au 56 rue de Verbois dans Paris et sur Instagram. Je remercie mes invités, ce fut un plaisir de partager leur univers. Retrouvez mon article sur cette émission sur le site de la radio. Bientôt un podcast également et des photos et vidéos sur ma page Instagram BeautyFunZaza et sur Facebook Animaux et Nature sur IDFM. À la réalisation de cette émission, c'était Francky. Merci Francky. Et juste avant de rendre l'antenne le 19 novembre, marquez ça bien dans vos agendas. IDFM présente la première édition IDFM Radio Show. À partir de 18h, il y aura des expositions et des animations. Et à 19h, un grand concert avec plusieurs artistes. Où ça ? Eh bien, à la Grande Dîme, place de la Mairie à Écouen. Voilà, bisous les sauvages.
IDFM 98 FM. Venez participer à la première édition du IDFM Radio Show, samedi 19 novembre 2022, de 18h à 23h30. Les talents émergents à l'honneur lors d'un concert inoubliable dans la salle La Grange à Dîme à Écouen. Plus d'une vingtaine d'artistes vont se produire sur scène pour vous ambiancer toute la soirée. La soirée débutera à 18h par une rencontre gratuite et ouverte à tous autour du média IDFM Radio jusqu'à 19h30. Exposition des archives photos de la radio, commentée par Christophe Caron, un plateau dédié aux interviews des artistes qui monteront sur scène, animé par les jeunes du Media Lab 95. Un corner graffeur en action avec le street artiste Wallace Spray Art. Un atelier Tag ton blaze. Venez vous exercer au graffiti et taguer votre prénom comme un street artiste. Et enfin, un stand pour participer à notre grande tombola. De nombreux lots sont à gagner. Toutes les informations sur idfm98.fr. IDFM Radio Show, première édition, samedi 19 novembre 2022, à la Grange à Dîme, à Écouen.